stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la bande dessinée. Cette émission est préparée par Aïssa Tundo et Jean-Christophe Briançon, Boris Pino et Grégoire Difior, et prise de son assurée ce soir par Emmanuel Mordinquant, réalisation Daniel Fino. Autour de moi ce soir, Catherine Robin, Antoine Guillot et Joseph Gauss. C'est une première pour Catherine. Bienvenue à elle, tout va bien se passer. À notre sommaire, deux expositions consacrées à René Goscinny. Goscinny et le cinéma, c'était la Cinémathèque française. René Goscinny, au-delà du rire, au musée d'art et l'histoire du judaïsme. Nous parlerons également d'Epiphania de Ludovic de Berme et du miroir de Mowgli d'Olivier Schroven. Présent également ce soir, Boris Pino qui va surveiller le fil Twitter Dispute FC. Si vous avez vu ses expositions, lu ses albums ou avez des questions à poser, faites-le sur ce fil Twitter. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, pour sa nouvelle formule et son numéro 400, Beaux-Arts Magazine mène l'enquête sur « Qu'est-ce que la beauté aujourd'hui ?» Gagner un exemplaire de ce numéro en kiosque actuellement. Cette dispute avec René Goscinny deux fois pour deux expositions consacrées au créateur d'Astérix, d'Isnogoud, du Petit Nicolas, longtemps scénariste de Lucky Luke, qui fut aussi évidemment le rédacteur en chef de Pilote, à l'apogée de ce magazine.
We all lonesome cowboy, lonesome cowboy.
Cette chanson mythique, Antoine Guillot veut déjà me coincer. À peine de retour, ses fans l'ont attendu, pas moi. Non, je plaisante. Oui, co-rédacteur en chef de Pilote, Antoine, ne vous déplaise, il le fut, René Goscinny. Alors, il convient sans doute de parler de chacune des expositions, peut-être d'abord séparément, pour voir ensuite quel portrait elle reste ensemble de Goscinny. On va peut-être commencer avec celle de Cinémathèque française. Alors, avec vous, Antoine Guillot, je signale déjà que dès demain, on vous retrouvera dans la dispute cinéma. Ça mettra un terme à ces lamentations sur les réseaux sociaux de votre absence bien involontaire. Il y a eu quelques jours de grève aussi dans cette émission. Alors, à la Cinémathèque française, deux de vos passions, cinéma, bande dessinée, manque le jazz. Bon, qui peut être présent parfois chez Goscinny aussi.
Bah, par moment, il y a de la comédie musicale, en tout cas.
C'est pas mal, c'est pas le jazz.
À un moment, donc c'est déjà pas mal. Non, alors c'est vrai qu'on peut commencer par celle-ci. Moi, je conseillerais aux visiteurs de commencer plutôt par celle du Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, puisqu'on va en parler, mais elle donne un peu d'où vient Goscinny et comment, entre autres, est née cette passion pour le cinéma. Alors,
mais j'ai fait ça pour vous donner la parole en premier, Antoine.
Et c'est très aimable et je vous en suis très reconnaissant.
Je vous
Arnaud.
En prie. C'est
un plaisir. C'est une exposition.
Joseph, un commentaire déjà.
Je m'abstiens, je passe.
Bon, d'accord. Antoine.
Non, c'est une exposition qui est très agréable parce qu'elle est à la fois ludique et intelligente. C'est-à-dire qu'elle fait un vrai travail, travailler la matière des relations de Goscinny et du cinéma. Alors, ça donne une lecture de Goscinny, c'est-à-dire qu'il y aurait mille autres expositions à faire. Mais c'est vrai qu'il est d'une génération comme Uderzo, comme Maurice et d'autres qui sont très frappés enfants par la découverte de Walt Disney. Par les dessins animés et qui veulent être Walt Disney ou au moins travailler pour eux. C'est pour ça que aussi bien Maurice ira aux États-Unis que Goscinny, quand il va aller à New York et qu'il va avoir sa première carrière de dessinateur, dont on voit d'ailleurs ici des extraits dès le début de l'exposition, il fait des caricatures de de stars de l'écran. Et alors, ce qui est formidable, c'est que à la fois tout est conservé chez Goscinny, qui était un classeur méticuleux de sa propre existence. Donc, les commissaires des deux expos n'ont eu qu'à aller se servir à l'Institut Goscinny et tout était là. Et qu'il y a le fond de la cinémathèque qui permet, par exemple, quand Goscinny fait une caricature de tel ou tel comédien, de retrouver la photo exacte dont il s'était inspiré à l'époque. Donc, c'est quelqu'un qui baigne dans une envie de cinéma et qu'il va pouvoir assouvir par la bande dessinée, d'abord, puisque l'expérience de tenter d'aller chez Disney ne va pas marcher pour telle ou telle raison. Ça sera vrai pour Franquin, ça sera vrai pour Maurice et d'autres, va faire entre autres du cinéma en bande dessinée. Alors, on est dans une exposition de la Cinémathèque française, donc c'est très scénographié par des salles qui vont reproduire la salle de classe du petit Nicolas, qui vont reproduire une sorte de palais de Cléopâtre. Mmh. D'ailleurs, moi j'avais un peu peur, je dois vous avouer, en allant voir l'exposition, à cause de son affiche au départ qui joue...
Il y a plusieurs affiches, hein.
Oui, mais notamment en fait, celle qui joue beaucoup sur Astérix Obélix avec la Cléopâtre incarnée par Monica Bellucci. Ouais. Donc là, on se dit, ça va être un peu une expo promo.
Oui, enfin, celle avec le petit Nicolas n'est pas mieux d'ailleurs.
Pour les adaptations, voilà. Non, c'est pas. Il faut aller au-delà de l'affiche, oui, oui. Comme hommage, on dit qu'il faut aller au-delà du rire. Ouais. Parce que derrière le côté. Fait pour les enfants, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont besoin d'ailleurs à la Cinémathèque d'avoir une exposition qui marche très bien, parce que depuis...
Avec des moins de 70 ans dans les salles.
Depuis l'expo Tim Burton, non mais je parle même pas des salles, je parle des expositions, les expositions...
Oui, dans les salles d'expo.
Leur coûte cher, ils veulent les faire de manière ambitieuse, et on peut vraiment saluer l'ambition à la fois du côté ludique, mais aussi, et là j'y viens, du côté scientifique de ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé, aussi bien pour Lucky Luke que pour Astérix, quelles sont les sources, et de manière, je trouve, très intelligente pour ce qui est de la réflexion qu'il y a depuis longtemps à la Cinémathèque sur comment exposer le cinéma, avec notamment ces bornes qui permettent pour tel album de Lucky Luke, par exemple, de voir quelle est la source cinématographique. On ne va pas mettre une photo, on va mettre un extrait, donc on fait vraiment vivre le cinéma. Ou par exemple, toutes ces fins de Lucky Luke qui nous ont tous fait rêver, ce qu'on a entendu ici en extrait quand Lucky Luke s'en va, I'm a poor lonesome cowboy. Chaque case, en fait, fait référence à un western qui a été vu, travaillé, à l'époque, et on n'est pas à l'époque du DVD où on peut se repasser des scènes, donc on a vraiment cette vision du cinéphile qui était Goscinny et qui était également Maurice, et chaque case renvoie à une fin de western qui sont pas des moindres puisque sont tous les grands classiques de John Ford et autres.
Donc, goût Goscinny.
Il y a un côté, ça nous apprend plein de choses et c'est assez joyeux à voir. Après, il y a encore d'autres choses sur lesquelles je reviendrai peut-être tout à l'heure.
Mais bien sûr, mais Catherine Robin, nous allons vous suivre dans ces salles. Qu'est-ce que vous avez, vous, perçu de cet univers cinématographique dans lequel baignait ce sourcier René Goscinny?
Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord avec Antoine.
C'est un bon début, ça, Catherine.
Voilà.
Excellent.
En fait, c'est toujours, comme vous l'avez souligné aussi, Antoine, c'est toujours très compliqué d'exposer le cinéma. Vous l'avez dit, Goscinny a la source de son... il a voulu travailler à Walt Disney quand il est parti aux États-Unis, sauf qu'il le répète souvent, Walt Disney n'avait pas le même rêve que lui. Mais moi, j'ai trouvé, en tout cas, en réfléchissant à cette expo, que le propos était très technique, comme souvent les expositions sur le cinéma. On nous montre des celluloïdes peints à la gouache. Il y a des montages assez bien faits pour nous montrer l'évolution technologique de Astérix et Cléopâtre jusqu'au Domaine des Dieux réalisé par Alexandre Astier. Tout ça est très technique. Ce dont vous parliez sur les trois écrans qui dévoilent un petit peu l'inspiration de Goscinny sur Cléopâtre, par exemple, avec le premier de Mankiewicz, j'avais peur de faire une erreur. Le premier long métrage d'animation des studios Idéfix et le troisième d'Alain Chabat. Moi, je trouve que le confort sonore est pas terrible dans la salle, et c'est notamment une chose qui est oublié dans l'exposition, comme souvent encore une fois, c'est le son, qui est le grand oublié, sachant que Goscinny il portait un soin précieux. Il disait qu'il adorait l'étape du mixage avec le rajout des bruitages et de la musique. Et je trouve que parfois, mais alors est-ce que c'est lié au fait que le cinéma est très dur à exposer, je trouve que parfois ça cède un peu au gadget. Moi, un de mes héros préférés de Goscinny, c'est le petit Nicolas. Moi, la salle de classe reconstituée années 50-60, bon, c'est peut-être chouette pour faire des selfies avec les enfants quand on est dans la salle, mais après il y a quelques planches de Sempé au mur.
Oui, ça raconte pas grand-chose.
Ça raconte pas grand-chose. Or, la langue déployée dans le petit Nicolas, c'est d'une telle inventivité, d'une telle musicalité que.
Bon, on aurait pu la faire entendre aussi.
Absolument. D'ailleurs, on a commencé l'émission avec du son et de la musique. Et puis, il y a au-delà du gadget, il y a aussi une forme de fétichisme, je trouve. Il y a quelque chose, par exemple, qui m'a un peu gênée, mais je pense qu'on y reviendra quand on parlera de l'expo hommage. Il y a quelques éléments comme ça, comme cet enregistrement qu'on présente à la toute fin de l'exposition de la voix de Goscinny la veille de sa disparition. Donc là encore, on l'entend pas très bien, c'est dans un casque, et on se demande un petit peu sur le fond qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est de nous montrer une sorte de fétiche comme ça de Goscinny. Plus grand que César et plus grand que tous les empereurs romains.
Joseph Gosne, sur cette exposition Goscinny, la Cinémathèque française.
Alors, il se trouve que moi, j'ai commencé par cette exposition-là, que j'y suis allé en essayant d'être le plus amnésique possible par rapport à Goscinny.
Difficile.
Difficile, mais en se contentant de se dire que c'est Astérix, Lucky Luke, le petit Nicolas, et voilà. Et j'ai été très surpris par ce que j'y ai découvert, c'est-à-dire à la fois les racines, la passion effectivement pour les États-Unis qu'on connaissait évidemment, mais des choses avec des choses très très précises. Par exemple, dès le début de l'exposition, j'ai été assez fasciné par le soin qu'il avait à redessiner les visages des acteurs. Il y a eu toute une galerie comme ça de portraits où il y a la photo et sa caricature, et je trouvais ça très très précieux, à la fois dans son trait, dans cette espèce de minimalisme, mais aussi dans la précision. Ça m'a beaucoup touché, et j'ai aussi été beaucoup touché par ce qu'on y voit comme univers général de l'esprit d'un artiste, d'un créateur, et j'étais assez troublé par finalement le cheminement de l'exposition, qui va de la fascination pour la culture de son époque, la culture américaine, Laurel et Hardy, etc., jusqu'à montrer comment Goscinny est lui-même devenu un personnage quasiment de fiction, puisqu'il il devient un personnage de télévision à la fin de sa vie, et qu'il anime les mini-chroniques, etc., etc. Donc j'ai trouvé tout ce parcours-là vraiment très instructif, très intéressant. Effectivement, la salle du petit Nicolas n'est pas la plus intéressante, mais en même temps, j'ai trouvé que ce qu'on y montre de Sempé est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que c'est du Sempé d'une qualité vraiment bluffante. Et que par ailleurs, j'ai plutôt apprécié de voir les aspects un peu techniques et de voir effectivement comment les choses sont développées. Et c'est vrai que on apprend beaucoup beaucoup de choses, et ça m'a vraiment mis sur d'autres pistes par rapport à mes anciennes lectures. Et j'ai compris pas mal de choses, et j'ai vraiment eu l'impression de voir une traversée de quelqu'un qui est fan ou admire Laurel et Hardy, avec justement cette grande affiche sérigraphiée de Laurel et Hardy très pop. Et qui aboutit finalement à Astérix Obélix des années plus tard, mais qui deviennent cette version beaucoup plus pop, etc. Donc moi j'ai plutôt vraiment apprécié cette exposition, avec en plus une couche que j'ai bien aimée, même si j'étais seul et sans enfant, qui est une couche ludique. Et je me suis dit que j'y retournerais bien avec des enfants pour voir comment justement eux réagissent, et ce qu'ils en font, et comment ils s'emparent de ces matériaux-là, ne serait-ce que pour savoir si ces matériaux ne sont pas non plus des matériaux de pure nostalgie, c'est-à-dire si ça ne travaille pas uniquement les gens qui ont lu Astérix, Obélix, etc. dans leur enfance, c'est-à-dire dans les années 60, 70, 80, ou si ça a dépassé les générations. Donc je pense qu'il y a une expérience comme celle-là à tenter.
En fait, ouais, l'expérience qui nous est proposée en ce moment à Paris, c'est intéressant, c'est un cas d'école d'avoir un même créateur dans deux institutions qui ont vraiment un cahier des charges extrêmement précis, avec la Cinémathèque française et le Musée de l'Art et d'Histoire du Judaïsme. On va en parler évidemment, et on va faire le lien dans un instant avec l'expo Hommage. On va dire que, évidemment, forcément, la judéité est très présente. La technique du cinéma est très présente ici à la Cinémathèque française, Antoine Guillot. Et puis, il faut quand même, on l'a évoqué, on a dit ce nom de Studio Idéfix, mais c'est quand même aussi toute la fin de vie de René Goscinny. Moi, j'avoue que je connaissais pas très bien cette histoire-là, et que ça m'a absolument passionné. Et tous les récits autour, et sur la fabrication d'animation sur cette ruche qui, en fait, est une sorte de reformation de pilote par d'autres moyens, j'ai eu l'impression, Antoine Guillaume.
Mais précisément, c'est ça qui est passionnant, et c'est là qu'on est au-delà du fétichisme pour l'enregistrement dont vous parlez, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup ému. Et en plus, il faut le chercher dans un petit coin, il n'est pas du tout mis en valeur, comme regardez, venez écouter la dernière bande sonore de Goscinny. C'est qu'on entend un Goscinny qui travaille le film. C'est-à-dire qu'il faut quand même préciser que les longs métrages qui ont été faits par le studio Idéfix, notamment les 12 travaux d'Astérix ou la balade des Dalton, sont co-réalisés à la fois par Goscinny et par ses dessinateurs. Et il y a, pour les fétichistes comme moi, des choses qu'on n'avait absolument jamais vues, qui sont les dessins préparatoires de Maurice, notamment pour la balade des Dalton, tout un découpage, un storyboard, qui sont des dessins extrêmement rares, qui étaient là dans un tiroir bien rangé, soigneusement classé par Goscinny, qui sont très très beaux à voir, et de voir quelqu'un qui enfin peut concrétiser son rêve, devenir réalisateur et le prendre extrêmement au sérieux. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une caution qui va signer le générique, c'est quelqu'un qui revient toutes les semaines leur dire, attendez, là ça va pas, là il faut partir dans cette direction. Donc ça, c'est absolument passionnant. Et puis on retrouve aussi le travail de réflexion de Goscinny sur le cinéma qu'il a fait notamment avec Gottlieb dans les Dingo Dossier, mais qu'il a continué dans les pages d'actualité de Pilote, et qui, pour des gens comme moi, m'ont parlé de films que je n'avais jamais vus, m'ont donné une façon d'appréhender le cinéma et certains de mes outils critiques viennent de ces lectures-là, donc merci René.
Merci René, mais le temps file. Alors j'évoque l'exposition au musée d'histoire du judaïsme, au-delà du rire, hein, c'est ça le
au-delà
titre.
Au-delà du rire.
Au-delà du rire.
Au-delà du rire.
C'est Joseph Gosn.
Je dirais même que c'est avant le rire.
Oui, c'est un peu bizarre. C'est enfin, bon, c'est un titre un peu... Parce que, le grandiloquent, d'une certaine façon, moi qui me...
Un peu,
dépassons
un
le titre ce coup-ci.
Tout à fait. Un peu grandiloquent. Là aussi, j'ai découvert beaucoup de choses, notamment sur... effectivement sur la famille, puisqu'il y a tout un... Finalement, une très grande partie de l'exposition ne parle que de ça, c'est-à-dire les racines...
Pour le coup, d'où il vient.
D'où il vient, avec tout de même ce préambule dans l'exposition qui dit oui, Goscinny était juif, mais cela n'apparaît jamais dans son œuvre. L'exposition s'évertue à recoller les morceaux et à montrer d'où vient sa famille, qui est sa famille, etc. Et à retracer ça et à montrer son parcours. Ça, moi, j'ai trouvé ça plutôt très intéressant, et il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, et notamment tout le passage aux États-Unis où effectivement il rencontre Harvey Kurtzman, Jack Davis, etc. Donc ces auteurs américains qui faisaient du comics, mais du comics finalement à la Goscinny. Enfin, il s'inspire vraiment d'eux. Il prend beaucoup chez eux. C'est de ce point de vue-là, les influences deviennent beaucoup plus apparentes. C'est plutôt bien fait et plutôt très réussi. J'ai bien aimé ça, et j'ai aussi beaucoup apprécié de voir des planches, notamment les planches de Jigé, de Jerry Spring. On voit il y a 13 planches de Jerry Spring dessinées par Jigé et scénarisées par lui, qui sont splendides, et du coup ça, comment dire, il y a une espèce de parallélisme qui se fait entre ce Jerry Spring qui était quand même le personnage de cowboy très sérieux, l'anti-héros, etc. Et de savoir qu'il y a Lucky Luke derrière. Donc d'un coup, de savoir qu'il a manié ces deux matières-là le rend plus complexe, plus intéressant encore. Si je devais mettre un petit bémol à l'exposition, c'est plutôt vers la fin, où il y a une section consacrée à Astérix, une autre à Lucky Luke, etc., où il y a des planches, mais j'ai trouvé ça très peu développé. Et du coup, je suis resté un peu sur ma faim, comme s'il manquait encore une ou deux salles pour aller encore plus profondément dans le travail même. Et finalement, l'expo à la Cinémathèque travaille ça sans doute un peu plus que le Mage.
Alors, il faut dire, Catherine Robin, que cette exposition, c'est Anne Goscinny, la plus jeune des deux filles de René Goscinny.
Il en a eu qu'une seule. Oui, il a eu Anne Goscinny, c'est la fille unique justement.
Ah oui, c'est le boyer, mais pardon, avec qui je confonds tout d'un coup? Avec quel autre père?
Enfin
bon,
il y a eu,
bon bref. Alors la fille unique de René Goscinny, qui après avoir vu l'exposition consacrée à Marcel Gottlieb au Mage, a été les voir, leur proposant de faire une exposition sur son père très unique, ça c'est sûr. Donc c'est intéressant de le savoir pour savoir aussi comment ça s'est développé, comment ça s'est construit avec évidemment Anne Goscinny.
Et c'est ça, c'est pour ça que moi j'ai vraiment vu cette exposition comme une exposition filiale. C'est vraiment l'hommage d'une fille à son père. Il y a beaucoup de documents.
Je sais avec qui je confonds, c'est avec la fille de Pierre Desproges, dont on parle beaucoup ces jours-ci. Ah. Elles sont deux pour le coup, pardon.
D'accord.
Je commence à me poser des questions. Oui.
Et donc cette fille qui dit toujours dans ses interventions, ses interviews, qu'elle a jamais réussi à faire le deuil de ses parents, et c'est elle qui a vraiment impulsé, je crois aussi du côté de la Cinémathèque, elle était très proche de Frédéric Bonneau, et voilà. Peut-être aussi parce que la religion est plus présente dans la vie d'Anne qu'elle ne l'était dans la vie de René Goscinny. Après, justement, ça pose la question. C'est à la fois très émouvant, très riche, parce que c'est un destin d'une famille d'Ukraine et de Pologne. Voilà, il a perdu trois de ses oncles maternels à Auschwitz. Il a perdu toute une partie de sa, je crois, presque toute sa famille paternelle dans le ghetto de Varsovie. Mais lui n'en a pas parlé. Lui, il est né en 1926. C'est quelque chose dont on ne parlait pas, ou en tout cas qu'on réservait au cercle très intime. C'était aussi quelqu'un de son vivant d'extrêmement pudique. Donc, on est comme à regarder dans le petit trou de la serrure pour aller voir la vie de cet homme. Là où je rejoins Joseph, c'est que sur la deuxième partie de l'exposition, qui là, tout à coup, on sort de ce qui était secret pour aller vraiment vers quasiment le patrimonial. Ben là, on est encore dans le problème qui n'est pas tout à fait le même que celui de la Cinémathèque, mais qui est la difficulté de mettre du texte, en fait, d'exposer un scénariste. C'est toujours le même problème. Certes, il a travaillé avec énormément de créateurs, de dessinateurs. La matière est très riche, mais encore une fois, on est un peu dans la frustration du texte. Et de la même manière qu'on est aussi un peu dans la frustration de l'analyse des ressorts comiques de Goscinny, qui est quand même un homme qui a fait rire la France entière et qui continue de le faire. Et là, y a une petite pièce, une dernière pièce à la fin, où on essaye de théoriser autour de la figure du typographe qui manie les lettres et les mots, et de faire le parallèle avec Goscinny qui fait un peu la même chose. Bon, on reste un peu sur la fin, sur notre fin en tout cas, sur cette. Alors qu'en effet, il a fait école au cinéma, chez les humoristes, chez les créateurs, et qu'il était très fort pour trousser tous les imbéciles de son époque. Voilà.
Antoine Guillot, partagez ses réserves.
Je partage exactement ses réserves. Donc, je vais commencer par la frustration, qui est effectivement qu'on a l'impression qu'il y avait tellement de matériaux accumulés, d'histoires à raconter sur ce qu'on ne connaît pas du tout de la vie de Goscinny, sur sa famille, son enfance en Argentine, etc., que tout d'un coup, mon Dieu, il ne reste qu'une seule salle, et c'est là-dedans qu'on va faire rentrer les préoccupations d'Anne-Hélène Hogg, qui est la commissaire de cette expo, qui quitte le musée d'art et d'histoire du judaïsme, puisqu'elle devient la conservatrice du musée de la bande dessinée à Angoulême. Ils ont fait une bonne prise là-bas. C'est elle qui avait fait les expos Gottlieb, l'expo sur les comics, les super-héros, etc., au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Mais donc, tout d'un coup, on se dit, oulala, il faut théoriser. On va faire rentrer dans cette dernière salle un peu de force, ce qui est plus développé dans le catalogue, et qui est une analyse que je ne partage pas beaucoup non plus, parce que l'analogie entre les cases dans lesquelles le Zetzer, le typographe yiddish, va mettre les caractères d'imprimerie, et donc cases, bande dessinée, etc., je ne suis pas sûr de l'analogie. Et quand je disais tout à l'heure que d'autres expositions restent à faire, il y en a une notamment sur l'analyse du comique, de Goscinny, mais aussi de sa façon de construire un récit, de comment lui-même pense la page de bande dessinée, qui est totalement à faire. Donc,
ce sera au musée du rire cette fois.
Non, mais ça sera pour le musée de la bande dessinée, qui sera tout à fait apte à le faire. Et il y a d'excellentes personnes pour le faire, comme Jean-Pierre Mercier, par exemple, qui lui a collaboré à l'exposition à la Cinémathèque. Mais la première partie, moi, m'a passionné, parce que c'est effectivement une famille d'imprimeurs, c'est les Beresnak, qui sont ceux qui vont imprimer Solzhenitsyn en russe, l'archipel du Goulag, c'est eux qui l'ont imprimé à Paris pour l'envoyer en Russie de manière clandestine. Et c'est eux qui, mais je crois que c'est pas dans l'expo, quand il est parti à New York, Goscinny, ils ont fabriqué un album, une pièce unique qui était comme son book pour aller montrer son travail. Et le Goscinny dessinateur, c'est passionnant ce qu'on voit de lui là-bas. Sa proximité avec l'équipe qui allait fonder Mad Magazine et les dessins d'adieu qu'ils lui font quand il retourne en France. Sont magistraux, c'est extraordinaire de voir ça et c'est une grande émotion. Et puis voir l'enfance de Goscinny, mais traitée comme on pourrait prendre l'histoire de n'importe qui est donc l'histoire d'un juif laïque, et c'est important en ce moment, dans ce moment où on renvoie sans arrêt les gens à leur religion, etc. Oui, c'était un juif laïque. Et j'avais très peur, moi, que cette exposition reprenne des thèses fumeuses qui ont été faites sur le village gaulois comme Stettel, en faisant des analogies, le druide, le rabbin, le barde, le cantor, etc. Heureusement, ça ne va pas du tout dans cette direction-là, ça nous raconte l'histoire d'un homme. Et pour pour ça, c'est très très émouvant. Même les photos d'enfance avec la coupe afro de Goscinny, c'est formidable.
Un homme. Et quel homme ? Goscinny et le cinéma, c'est donc, vous l'aurez compris, à la Cinémathèque française. René Goscinny, au-delà du rire, au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Les deux expositions se poursuivent jusqu'au 4 mars 2018.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir à la bande dessinée avec le premier volume d'une trilogie de Ludovic Debeurme intitulée Epiphania qui voit, après un tsunami et la chute de 3 météorites, apparaître sur Terre une nouvelle espèce baptisée Mixed Body qui semble pousser dans la Terre avant de se révéler comme hybride entre hommes et animaux.
Seen enough to eye you, but I've seen too much to try you. It's always weirdness why you dig it much, much to fry you. The weirdness flows between her, anyone can tell to see her. Freak scenes can't believe her, or can it just be cool and freer?
Sur cette douce musique de Dinosaur Junior, nous parlons donc d'Epiphania, premier volume de ce qui s'annonce comme une trilogie. En tout cas, c'est ce que Ludovic Debeurme explique. Catherine Robin, pour ouvrir cette dispute.
Eh bien, moi, je dois avouer qu'au départ, la couleur de la couverture m'a un peu rebuté, cette ligne claire, ces teints pastels, un peu assombris comme filtrés par une couche de gris un petit peu. Mais je me suis pas ruée dessus au départ, mais dès la première page et dès les premières pages, il y a vraiment quelque chose d'intrigant. On ne sait pas très bien où on va mettre les pieds. Est-ce que c'est une fresque sur le rock? La première image, c'est comme ça, un musicien de dos en concert. Un récit sur la crise de couple, sur un nouveau père qui ne va pas être à la hauteur, ou sur une bluette qui, puisque après on part sur une île, le couple de héros entre guillemets part sur une île pour sauver son couple. Donc, est-ce que c'est une satire de développement, ouais. Pour dénoncer les stages de développement personnel? Mais non, en fait, on est complètement à côté de la plaque. Et en fait, il s'agit de mutants dont vous parliez, Arnaud. Et à partir du moment où on plonge dans cette réalité un peu science-fictionnesque, on est complètement ferré. Et j'ai bien aimé cette façon de nous perdre au départ, sans être vraiment frontal, de nous amener vers le sujet, en plantant comme ça des graines narratives et pour arriver à ce monde très intrigant, un peu entre David Cronenberg, Charles Burns, ça rappelle un peu tout ça, avec des mutants qui nous renvoient un peu l'image d'une civilisation au bout du rouleau. D'ailleurs, le héros avec sa grande barbe de hipster, sa casquette, fait toujours la même tête. Son visage est toujours très 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 en gros plan, occupe la case comme à peu près, enfin comme beaucoup de cases dans la bande dessinée. C'est justement cette dépression de civilisationnelle entre guillemets qui l'illustre, et ce visage qui fait la gueule tout le temps, et ben il est c'est un beau contraste avec les couleurs pastel et douces. Mais en fait, ce que j'aime dans cet album, c'est surtout la montée de la violence, la gradation dans l'angoisse à mesure que le gamin grandit.
Que tous les enfants de cette nouvelle espèce grandissent.
Et que tous les enfants mutants grandissent et que leur animalité, plus vite, ouais. Anormalité se manifeste. Ça, c'est très très bien fait. Je trouve que l'album est extrêmement maîtrisé d'un point de vue graphique, d'un point de vue rythmique et d'un point de vue surtout narratif. La fin de l'album nous laisse sur un cliffhanger, c'est comme ça qu'on dit, qui appelle. Voilà, je le trouve très très maîtrisé cet album.
Alors là, le français pour cliffhanger, Antoine Guillot, vous le connaissez?
Oh ben c'est un suspense, un suspens.
Un suspens, ça marche pas.
C'est à suivre, c'est la suite au prochain épisode.
Ouais. C'est vrai que Ludovic Debeurme, là, on retrouve ce qui l'intéresse, la question de filiation, de paternité, on en parlait à propos du Mage et de René Goscinny, on est en plein là-dedans, sauf qu'il le traite quand même cette fois-ci, et sur le fond et sur la forme très différemment.
Bah déjà parce qu'il vieillit.
Mais c'est vrai. Et j'ai vu une photo de lui, c'est sa tête,
c'est
le hipster.
C'est sa tête,
hein.
Avec plus de cheveux. Ouais. Hein. Il a le crâne rasé, mais c'est vrai que je me suis fait la même réflexion.
C'est
Ludovic Debeurm en permanence, qui est aussi musicien, lui-même, guitariste, et autre, parce que c'est un artiste assez...
Est-ce qu'il est au bout du rouleau? On dirait pas.
Assez complet. Et non, c'est moi.
Commence un nouveau rouleau.
C'est la première chose qui m'a beaucoup ému. Les premiers livres de Ludovic Debeurm étaient des histoires d'adolescence, d'anorexiques, de jeunes gens très mal, très très mal dans leur peau. Après, il a fait, je crois qu'on en avait parlé ici avec le diptyque Trois fils, des histoires de fils en lutte contre leur père, un père monstrueux, père dévorateur. Et puis là, tout d'un coup, qu'est-ce que c'est qu'être père? Et la manière dont Ludovic Debeurm va dessiner ce petit animal étrange qui est un bébé, c'est-à-dire que même c'est une sorte de faune, un être mythologique qui vient au monde, mais il a une manière de capter ses attitudes et le regard que peut avoir un père dessus qui rend assez évident qu'il a dû se passer quelque chose dans la vie de Ludovic Debeurm, parce qu'on dessine
c'est
pas
le cas,
des enfants
c'est
comme...
le cas.
Vous le savez, vous
pouvez le dire.
On regarde pas un enfant de la même manière, on le dessine pas de la même manière selon qu'on en a eu ou pas. Et donc ça, c'est une première chose. Ensuite, grosse évolution, c'est le premier livre de Ludovic Debeurm chez un grand éditeur de BD généraliste qui est Casterman, qui est tout grand éditeur qu'il soit, est assez aventureux, notamment depuis que Benoît Mouchard est le directeur éditorial, mais il doit quand même rentrer dans des cases. Et très graphiquement parlant, il rentre dans des cases, puisque la spécificité de Ludovic Debeurm, c'était auparavant de faire des bandes dessinées qui s'affranchissaient complètement du système des cases. Et donc là, il va prendre le système le plus rigide qui soit, qui est celui du gaufrier, c'est-à-dire des cases qui ont exactement la même taille. Quand il va faire des plus grandes cases, ce sont en fait les tailles de la même case, de la même taille qui fusionnent. Donc il y a cette régularité. En plus, avec des cases au trait noir, on n'est pas dans les classiques cases isolées les unes des autres avec l'espace intericonique, la gouttière. Là, elles sont très collées. Donc ça donne un sentiment d'enfermement. Même dans les scènes intimes d'intérieur, de tendresse avec un enfant, on sent déjà la société qui entoure, et en tout cas tout un système oppressant dont on imagine bien que ça va assez mal se passer. Pour ce qui est une lecture assez transparente, à la fois des dégâts que l'humanité fait subir à la planète, des migrants, on voit le terrorisme arriver sur la fin. Donc il embrasse beaucoup de thèmes, mais de manière très intime, tout en gardant en transigeant pas sur son trait qui s'est affermi d'une certaine manière, mais qui garde toujours cette étrangeté. C'est-à-dire les proportions des personnages chez Debeurm sont très étranges. Ils ont des très grosses mains, des très gros pieds. Les têtes, souvent, sont disproportionnées. Il y a presque un univers sans perspective. Il y a des effets qui viennent du comics, de Jack Kirby et d'autres, avec un très gros pied à un moment en avant-plan. Une façon de déformer les corps qui nous met dans un état d'instabilité. Et ce graphisme un peu mouvant se confronte sans arrêt à ces cases très rigides. Donc c'est très, très passionnant à lire d'un simple point de vue graphique. Et on a très envie de lire la suite. J'espère qu'on ne va pas l'attendre trop longtemps.
Ah, ça c'est un problème. Alors peut-être avant de vous donner la parole, Joseph Gons, pour amener un peu de contradiction. Moi j'ai horreur des trucs en plusieurs volumes, ça me frustre absolument. Je trouve ça, pour moi c'est vraiment du mercantilisme absolu. Je trouve ça, c'est fait pour qu'on achète le deuxième puis le troisième. Mais moi ça m'agace. Que l'histoire ne finisse pas, mais j'entends bien que c'est une vieille histoire, mais il n'empêche. On n'arrête pas les films au milieu, même s'il y a une suite, à part...
La Guerre des Étoiles.
Le Seigneur des Anneaux.
Le Seigneur des Anneaux.
Des Anneaux, je n'ai jamais vu. Mais au-delà de ça, il me semble qu'Antoine a dit qu'il y avait effectivement beaucoup de sujets traités dans ce livre. Moi, je trouve qu'il trop embrasse mal étreint. Je trouve quand même la pauvreté des dialogues assez consternante, le simplisme du récit lui aussi assez gênant, et bon, moi j'aime pas du tout les couleurs, Catherine, bon, vous m'en excuserez, je trouve que ça affadit considérablement le trait qui pourrait m'intéresser ou m'a intéressé, et les albums précédents de Debeurm m'ont plutôt séduit, et là j'avoue que ma légère déception. Oh, Joseph, vous allez le défendre, vous aussi?
Je vais le défendre un peu.
Bon, j'ai bien fait d'amener un peu de dissensus.
Vous avez bien fait. D'abord, juste sur l'idée de la trilogie. Souvenons-nous que les derniers livres de Charles Burns étaient une trilogie aussi. J'ai eu l'impression, en commençant les lectures de ce nouveau de Burns, que ça s'inscrivait un peu dans cet esprit-là, dans le même esprit que Burns. Mais là où Burns travaille travaille ses propres influences, travaille la littérature, etc., etc. De Burm travaille plutôt la psychanalyse, ça on le sait depuis ses débuts. Et là, effectivement, il travaille ce rapport au père, le rapport filial, mais je trouve qu'il le travaille d'une manière que j'ai jamais vraiment lue dans en bande dessinée, c'est-à-dire qu'en injectant cette figure de l'autre, de l'étranger et de l'étrange, il fait évidemment référence à ce que la bande dessinée américaine fait depuis 50 ans, c'est-à-dire la mutation, les mutants, etc., etc., mais qui sont toujours présentés comme des corps un peu distants, avec des frontières, etc. Là, au contraire, ils sont en nous, ils sont avec nous, et De Burm essaye de voir comment ces personnages évoluent. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant et assez réussi, d'autant plus que ça part d'une vraie utopie au départ, qui est cette utopie du couple qui va se retrouver autour de cette espèce de charlatan sorti des années 50, et tout à coup tout s'effondre. Donc j'ai bien aimé ce contraste entre l'utopie qui s'effondre, c'est-à-dire en gros, De Burm prend acte du fait que finalement un couple c'est une utopie aujourd'hui et que c'est très compliqué à tenir et que ça n'existe pas. Et il tente d'explorer ce que ça veut dire d'être un père avec un fils. Et de ce point de vue-là, j'étais plutôt surpris par ce qu'il a tenté de faire. Je dis pas que c'est réussi de bout en bout, parce que effectivement il y a plusieurs ficelles et plusieurs cordes à tirer et beaucoup de choses à construire. Mais j'ai trouvé que graphiquement, avec notamment cette idée de l'enfermement dans les cases. Je trouvais ça plutôt réussi, notamment chez lui, où d'un coup, alors qu'avant il était très libéré, très 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 fluide sur ses pages, là on est vraiment, j'ai l'impression d'être vraiment dans la psyché de ce personnage qui par ailleurs avec sa figure de hipster semble lui-même déjà enfermé dans plusieurs couches d'uniforme. Donc ça je trouve ça pas mal. Je trouve que ça pêche ensuite dans le récit dès que commence à apparaître les autres figures de mutants, là où la violence commence à se manifester, et toute la fin me laisse un peu de marbre en fait, et le cliffhanger ne me séduit pas tant que ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de récit, enfin en tout cas ce genre de fin à suspense, et j'avais plutôt envie de quelque chose d'un peu plus d'un peu plus mystérieux, ou en tout cas quelque chose d'un peu plus à la Burns justement.
Catherine Robin, sur cette fin, ou sur un autre élément
Non, moi ce que je voulais ajouter, c'est sur cette relation entre ce père et ce fils, il y a aussi la question de l'animalité et ce qu'elle renvoie. Et c'est marrant parce que ça m'a fait aussi penser à l'album dont on va parler après, ce Miroir de Mowgli, puisque ça questionne aussi l'animalité qui est en chacun de nous, ce miroir, cette animalité qui est bâillonnée ou... sur le vernis de la civilisation et auquel tout à coup ces humains sont confrontés et doivent faire face à ça pour aboutir je ne sais où, on le saura dans les prochains tomes,
mais
je trouve que c'est très en lien
avec la
BD qu'on va voir après, même si ça n'a rien à voir.
Vous m'accordez avec le propos est en 2017 quand même d'une banalité un peu basique quand même, l'animalité, la revanche de la nature, enfin c'est quand même, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'ambition, c'est très bien d'avoir d'ambition, mais il faudrait avoir les moyens scénaristiques.
En fait, je trouve qu'il y a une question, une vraie question. J'ai l'impression, c'est plutôt l'absence de la mer. C'est comme ça en fait que je lis, et notamment.
C'est vrai pour la première moitié.
Pour la première moitié, mais même ensuite, c'est-à-dire que le père tente de trouver une autre mère. Les circonstances font que ça ne peut pas se produire, ou en tout cas qu'elle est distante. D'un coup, en fait, surtout cette deuxième partie, je l'ai trouvée un peu faible, notamment par rapport à des choses qui sont un peu du même ordre, mais qu'on voit plutôt dans des séries comme Walking Dead par exemple, où on est plongé dans une matière quelque chose de plus fort. Mais effectivement, là, il y a une page où le père et le fils sont ensemble et le fils dit parfois j'aimerais savoir ce que ça fait d'avoir une maman. Et j'ai eu l'impression qu'il y a beaucoup de choses se construisaient autour de ça. C'est un peu.
Je parlais de pauvreté des dialogues.
Oui, hein, oui, mais en même temps.
C'est vous qui le citez, mais je pourrais en faire à peu près toutes les pages.
En même temps, je trouve que ça touche quand même assez, de manière assez simple, sur des choses assez, assez d'actualité.
Ouais, vous dites assez simple, moi je dis simpliste, mais c'est vraiment une question de subjectivité. Antoine Guillot.
Moi, je sais pas, pauvreté des dialogues, je vous avoue que je me suis pas arrêté dessus parce que je l'ai lu dans une fluidité. J'ai plus le sentiment.
Pas arrêté dessus, peut-être, Antoine, parce qu'ils sont vraiment simples.
Oui, mais si on doit s'arrêter sur un dialogue en bande dessinée, ça peut être un problème aussi. Comme quand, dans un film, tout d'un coup, on ne regarde plus que la belle image ou un beau dialogue et qu'on en oublie l'intégralité. Donc, je trouve que ça s'intègre. Ça s'intègre tout à fait à la fluidité de la lecture. J'ai quand même le sentiment, effectivement, que De Barme s'est un peu enfermé lui-même dans une façon de faire récit, c'est-à-dire de l'écrire avant, puis de l'illustrer. Qui n'était pas du tout sa manière de travailler. Je crois savoir que lui-même s'en est rendu compte et que dans les tomes suivants...
Il a dit que le deuxième serait plus libre. Hein.
Il va se libérer. Moi, j'attends beaucoup de la suite. Mmh. Parce que les choses sont posées comme une sorte de long prologue. Après, ça peut partir dans le pire comme dans le meilleur. Donc, je suis très, très curieux de ce que ça donnera après. Et peut-être que cette femme emportée par un tsunami dans les premières pages reviendra. Je sais.
Bon, réponse. Mais alors ça, ce ne sera pas la semaine prochaine. Contrairement aux séries, ce sera on ne sait quand Ludovic de Berme en aura fini avec Epiphania de volume 2. Pour l'instant, Epiphania tout court sort donc chez Casterman.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute du jeudi soir consacré cette semaine à la bande dessinée avec le miroir de Mowgli d'Olivier Schroven à l'association qui a plusieurs particularité formelle dont nous allons parler.
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities or Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found. Out my big home, the bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few.
You eat ants?
You better believe it, and you're gonna love the way they tickle.
Mowgli, look out!
The bare necessities of life will come to you.
That's weird.
They'll come to you.
Êtes-vous arrivé en effet, c'est ce bonheur. Joseph Gauche, j'évoquais alors des particularités formelles du miroir de Mowgli. D'abord, dire qu'il s'agit d'une réédition et que du coup, cette réédition se fait sur un format que je trouve qui convient bien
à
ce récit, papier journal.
Un papier journal. Alors, la première édition était plus petite.
Oui, dans le format.
Elle date de 2011. Et là, c'est effectivement, c'est du papier journal.
Et ça coûte
même
8
la
euros, du coup.
Ça coûte pas très cher. Ça coûte
8, je crois.
7
oui,
euros.
C'est ça,
7 euros.
Non, 8 euros. 8 euros.
Je l'ai payé 7.
Ah bah, vous avez un bon
livre. Vous avez un remise, alors. Peut-être que c'est marqué au dos. Hein.
Oui,
même la couverture.
Même la couverture, c'est-à-dire que il n'y a pas de couverture cartonnée, il n'y a même pas de couverture. La couverture est faite vraiment du même papier que le reste. C'est un dos pincé, c'est-à-dire qu'il est agrafé, et donc c'est un objet qui est très facilement, qui est quasiment jetable, ou en tout cas très facilement, qui s'abîme très facilement. C'est ce qu'on se disait.
On peut le laisser sur un banc, sur une banquette de métro.
Et... On peut l'oublier,
on peut le donner,
on peut se salir les doigts avec, certainement. C'est quasiment un journal, un quotidien. Quasiment.
Alors, autre particularité formelle, pas de texte.
Pas de texte, un gaufrier, quasi tout le temps, un gaufrier qui fait que les cases sont souvent comme en miroir, l'une de l'autre, et tout le récit se déroule ainsi, c'est-à-dire le miroir, les personnages se confondent parfois, et puis se séparent et s'éloignent pour se rapprocher ou se retrouver. Ensuite, une autre particularité, ce sont les couleurs. Le livre, à l'origine, était en risographie, c'est-à-dire avec des aplats qui ressemblent à la sérigraphie. Et là encore, il y a ces couleurs qui donnent l'impression d'être un peu primaires, de baver un peu parfois, ou en tout cas d'être comme ça, un peu à l'ancienne. Et c'est une des caractéristiques du livre, de ce récit, d'être d'abord un récit de couleurs. Et du bleu, de l'orange. Et on se prend vraiment ça en pleine figure avant toute chose, avec d'autant plus que le papier boit bizarrement ces couleurs là ensuite le récit lui-même, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un récit muet. le miroir de Mowgli. Mowgli, on est dans la jungle, pas dans le livre de la jungle, mais dans la jungle. Et on est confronté à une relation entre un Mowgli, c'est-à-dire un Tarzan.
Un
jeune Tarzan un gorille, enfin une guenon, une grande gorille, c'est ça,
on dit comme
ça.
Non, c'est
un orang-outan, je suis troublé par cette relation. et tout le livre traverse cette relation là avec à un moment la perte de l'orang-outan, c'est-à-dire la perte de l'être aimé, la quête pour le retrouver. Avec tout de même la figure d'un enfant qui naît de ces amours-là et dont on ne sait pas exactement ce qu'il est ou qui il est. Et là, d'un coup, effectivement, on est propulsé dans ce que Ludovic de Burme a exploré aussi, c'est-à-dire cette relation paternelle, mais qui là est plus une relation d'étrangeté, de rapport à l'étrange et d'essayer de retrouver ce qu'il en est exactement. Donc c'est un livre très très étrange qui m'avait beaucoup surpris quand je l'avais découvert dans sa première édition. Et là, je le redécouvre et j'ai l'impression de lire avec ce format-là un livre tout à fait différent. Et d'être vraiment plongé dans une matière qui est assez rare en bande dessinée, je trouve, puisqu'elle est à la fois muette, mais même si les récits en bande dessinée muets sont de plus en plus nombreux, mais d'être tout à coup confronté à quelque chose qui parle à la fois d'exotisme, c'est-à-dire que repose sur des vieilles choses exotiques comme ça, mais qui est surtout un récit qui interroge vraiment le genre, la sexualité, l'animalité et ce qu'on fait de ses propres instincts. Et de ce point de vue-là, je trouve ça assez passionnant.
Alors, je voudrais pas l'opposer justement à Ludovic de Burme, mais il me semble, Antoine Guillot, qu'on a beaucoup plus de place, nous lecteurs, dans le récit que propose Olivier Schreven, et qu'on n'est pas assigné à penser telle ou telle chose ou à se lamenter de telle ou telle chose. On est extrêmement libre dans ce récit.
Oui, mais parce que c'est une œuvre beaucoup plus expérimentale. C'est
plus riche.
On n'est pas du tout. Oui, et de fait, sans doute plus riche. En tout cas, moi, c'est un livre qui m'a bouleversé. Mais comme rarement depuis longtemps, parce que d'abord, effectivement, c'est un très bel objet. Vous disiez, pour 8 euros, vous pouvez avoir ce que je considère être une œuvre d'art chez vous, qui est vraiment un bel objet conçu comme ça, mais et qui fonctionne uniquement comme une odyssée du récit en bande dessinée, de la matière, de ce que ça peut provoquer comme réaction très primaire parfois chez moi. Et embarqué par le récit, j'ai ri. J'ai été séduit, je suis presque tombé dans la bestialité avec ce. Avec ce personnage, j'ai été terrorisé quand il se passait des choses atroces. J'étais complètement perdu avec lui, comme cette double page centrale où tout d'un coup le gaufrier se réduit en cases beaucoup plus petites et presque abstraites. Et là, les effets de matière se chevauchent, qui est le moment un peu de bascule dans le livre, où le personnage va quitter le monde de l'animalité pour découvrir celui de l'humanité et d'un double possible, avec une façon très sexuelle de montrer le rapport, encore une fois, aux matières. Donc il y a presque des stimuli abstraits qui fonctionnent sur moi. Le livre pourrait être complètement abstrait. Je suis sûr que ça provoquerait la même chose par l'agencement des couleurs, par l'agencement des matières et par cette gymnastique du corps, cette façon de figurer le corps qui est tout à fait extraordinaire. Donc c'est un moment d'émotion rare en bande dessinée pour un livre qui est d'autant plus émouvant qu'il est très fragile, comme vous le dites, et qu'on a peur de le manipuler, de l'abîmer en le compulsant, en le transportant. Je me suis demandé, est-ce que je vais le ramener ici? Et puis en reprenant ces pages, j'ai la même émotion très exactement qui vient. C'est quelque chose où on avait beaucoup parlé de Schroen, et de l'effet Arsène Schroen, qui était une réflexion déjà sur le colonialisme, l'orientalité, mais il a vraiment une œuvre là qui commence à se construire, qui est bouleversante. Et ce principe de la rhizographie avec son archaïsme et son côté, il a fait des démonstrations à Angoulême de comment marchait cette machine, qui marche par pochoir, effectivement, et qui est faite au départ pour faire de la reproduction en série, mais quasiment de tracts qu'on donne à la sortie des églises, vous voyez. Donc, il y a
écoutez, pas, mais...
très, très, non, mais bah, ou tracts syndicaux à la sortie des écoles, vous voyez, ça sent moins mauvais que les procédés de topographie avec de l'alcool, vous voyez, c'était vraiment quelque chose de très économique. C'est un japonais qui a inventé ça, et tous les moments où il décale les couleurs, où il va créer de la trame, etc., c'est tout à fait bouleversant.
Alors, bouleversé, Catherine Robin, ou pas
Bouleversé, je sais pas, mais j'ai beaucoup ri. Ça, c'est
une émotion importante aussi.
C'est aussi, oui, absolument. Je partage, Antoine, votre admiration pour le génie des postures. C'est vrai qu'il a vraiment un vrai sens des corps. Moi, ça m'a fait penser sur la forme au ronéotype qu'on reniflait quand on était enfant à l'école primaire. Mmh. C'est pour ça que ça tâche pas, d'ailleurs.
C'est le mot que je cherchais tout à l'heure pour la reproduction. Ouais.
Voilà, hein, qu'on reniflait. Oui, j'ai trouvé ça vraiment très drôle, ce jeu avec la symétrie, ce miroir, ce mougli qui cherche à faire famille, à construire. Il essaye de rendre bipède le petit singe qui naît. Il y a une image où les deux personnages nous regardent. On dirait une photo sortie de la maternité comme ça. Mais voilà, où il court après. Et la symétrie lui montre l'incongruité de son projet, puisqu'il n'y arrivera jamais, puisque Madame est un orang-outan. Donc j'ai beaucoup ri. Après, il y a plein de petits détails. Je trouve que on peut même ouvrir l'album, je ne sais pas si on peut dire album, mais on peut ouvrir l'album et juste contempler les doubles pages qui se suffisent à elles-mêmes, comme cette double page où Laurent Houtan va boire le reflet dans l'eau du visage de Mowgli et qui ensuite est avalé comme ça. C'est vraiment très très beau. J'ai trouvé ça très très beau et très très drôle, notamment... même la silhouette de Mowgli au départ, qui ressemble un peu à une espèce de duvet, qui a une mulette à la beau gosse de Riyad Satouf quasi au départ, et puis qui à la fin, quand il finit par se perdre, ressemble plutôt il ressemble à quoi? Il ressemble à un faune, justement, un peu à la fin.
Il a un côté clochard et denté aussi.
Voilà, puisque finalement, c'est un peu ça, Mowgli, c'est-à-dire c'est un récit initiatique. Il va de rencontre en rencontre, il rencontre des animaux. À chaque fois, il bute sur chacune de ses rencontres. Et c'est toujours très drôle parce qu'il bute dessus avec la grâce d'un clown, ce qui fait qu'on rit beaucoup. Et puis, à la fin, la quête initiatique, soit on plonge dans le miroir et on se trouve soi-même, soit on se perd. Je ne sais pas ce que vous avez perçu, vous.
On ne le dira pas pour que nos éditeurs et auditrices aillent faire ce chemin, Joseph Gosn.
Oui, je voudrais juste revenir sur cette idée que, effectivement, les pages peuvent aussi se suffire à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un récit. Mais si on regarde les pages et même quasiment chaque dessin, il y a une matière qui approche parfois de quelque chose d'un peu psychédélique ou en tout cas d'assez expérimental et qui me fait penser aux expérimentations qui elles pour le coup sont plus formelles de toute une génération de d'auteurs et de dessinateurs autour d'une revue qui s'appelle Lagon et qui expérimente eux aussi avec la rhizographie et qui expérimente plusieurs types et genres de d'impressions dans une même revue. Ils en sont à 3 ou 4 numéros et on pourrait apparenter Schrauen à cette mouvance-là, c'est-à-dire des gens qui commencent quasiment le dessin par la matière même, par la trame, par l'effet quasiment qui va être produit à travers la page. Et lui, effectivement, vient sans doute de quelque chose de plus narratif, évidemment, mais on pourrait quasiment le découper chaque page et en faire des œuvres à part entière. Et ce serait assez intéressant de voir ça exposé, justement.
Bon, voilà encore une idée d'exposition.
Oui, c'est une école belge flamingante à laquelle appartient Brecht Evans et d'autres qui apportent de la pictorialité dans la bande dessinée, mais sans se perdre dedans comme d'autres ont fait de la peinture en bande dessinée et ça devenait l'image pour l'image. Là, on reste quand même dans une image narrative, porteuse d'émotions et voilà, qui travaille d'ailleurs souvent le trait en couleur, le trait de la silhouette comme ça, qui donne une fragilité, une vivacité en même temps. Donc voilà, c'est très très impressionnant ce qui se passe en ce moment en Belgique.
Bon, recommandation à l'unanimité pour le miroir de Mowgli d'Olivier Schrauben à l'association. Et question bonus pour Espino.
De Clément M sur Twitter qui demande ce qu'apporte cette réédition. Un nouveau format peut-être plus généreux pour commencer.
Un format différent, oui, et effectivement, enfin à la fois généreux et en même temps beaucoup plus un peu jetable, mais qui justement rend la chose encore plus précieuse.
Et autre question.
À propos, plus généralement, de la BD, on parle beaucoup de la rentrée littéraire. Clément M. lui demande s'il existe une rentrée BD et des prix associés à cette dite
rentrée. Une rentrée littéraire BD, Antoine Guillot.
Oui, il existe plusieurs prix. Il y a le prix Landerneau de Michel-Édouard Leclerc qui commence à avoir pas mal d'impact. Et puis il y aura le grand prix de la critique à ces BD qui est remis en décembre généralement et qui regroupe la grande rentrée bande dessinée. Enfin, en fait, ça se passe sur un an, mais c'est vrai que les albums et autres livres sortis entre septembre et décembre, souvent, sont ceux qui sont le plus récents dans la tête des critiques, donc ils reviennent.
Mais on a notre auditeur, Twito, qui nous a donné le nombre de volumes parus là, en septembre-octobre, très important.
Ah oui, qui a fait le compte de 295 parutions depuis la rentrée et qui recommande donc la programmation d'une dispute BD au moins une fois par mois.
Bon. Oui, mais enfin, il y en a 5500 dans l'année. Hein. Ouais. Il faut le rapporter à ça, donc c'est juste un mois normal.
Comment on suit l'actualité de la bande dessinée, Catherine Robin, quand on s'intéresse à beaucoup de choses comme vous pour le journal Elle ?
Comment on suit la bande dessinée On suit, quand on travaille au magazine Elle, on suit un certain type de bande dessinée.
C'est voilà. Ça la bonne réponse. Joseph Gost, vous qui suivez tout le temps.
Donc
vous faites
on
comment
a des grosses lacunes dans certains genres.
Moi j'adore les noms des librairies, notamment de bande dessinée. Voilà. Et enfin des librairies, des Fnac, etc. Enfin des rayons de bande dessinée, voir ce qu'il y a, voir ce que les gens lisent. Et effectivement, il y a toujours des choses, que ce soit des, il y a beaucoup de rééditions très bien faites en ce moment. Il y a aussi beaucoup de nouveautés. Et c'est, je pioche souvent à la, comme ça, au hasard ou à la couverture.
Allez dans les librairies, c'est toujours le meilleur conseil. Et pour conclure cette émission, le jeu de la dispute, on va commencer avec Grégoire Di Fiore et à rappeler la question du jeu d'hier au soir, Grégoire.
Quel fruit est également le nom d'un documentaire d'Amos Gitai dénonçant la mondialisation ?
Et on s'était demandé hier avec Aïssa Tundoy si c'était vraiment la bonne réponse, mais oui, c'est...
L'ananas,
un film d'Amos Gitai qu'on ne connaissait pas, même vous Antoine Guillaume.
Ah non, pourtant j'en ai vu des Amos Gitai.
Et moi donc, mais bon, on en a encore à découvrir. On fait gagner ce soir, pour la nouvelle formule et numéro 400 de Beaux-Arts Magazine, un des exemplaires de ce numéro, la question...
Qui est l'auteur de ces vers ? Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile... Et le beau souvent nous détruit.
Si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout ça par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr aussi réécouter nos émissions et vous abonner au podcast de la dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain, postez sur la page Facebook La Dispute FC ou dès maintenant ou en direct sur Twitter avec le fil Dispute FC. Demain, Dispute Cinéma, on retrouvera Antoine Guillot pour la plus grande joie de ses très nombreux fans. Il sera avec Muriel Joudet et Jean-Christophe Brianchamp. Notre affiche Détroit, ou Detroit, Catherine Bigelow ou Bigelow. Oui, non, un américanophile phone m'a dit Bigelow. L'autre jour, j'étais très surpris.
Et Detroit.
On va, j'ai dit, je propose les deux. Hein. L'atelier de Laurent Canté. Et puis Kingsman, le cercle d'or de Matthew Vaughn.